France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La parole aujourd'hui est à un colporteur de savoir-faire paysan, c'est ainsi qu'il se présente. Thomas Borel appartient à une coopérative qui, depuis une quinzaine d'années, aide les agriculteurs et les agricultrices à fabriquer eux-mêmes leurs machines. Il est convaincu que la fabrication et la réparation des outils et des machines sont la clé de l'autonomie paysanne. Cette coopérative fournit donc des tutos, des formations, des ateliers bricolage aux professionnels de l'agriculture. L'idée est donc de leur apprendre à faire eux-mêmes pour qu'ils ne dépendent plus des industriels. Et ce projet, l'air de rien, porte en lui un changement radical de regard sur le monde agricole. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Thomas Borel.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes chargé de mission à l'Atelier Paysan. C'est le nom de cette coopérative qui organise des formations un peu partout en France. On va bien sûr entrer dans le détail sur les raisons d'être de cette démarche, sur les convictions qu'il apporte. Démarrons s'il vous plaît par le concret. Quels services proposez-vous à celles et ceux que vous accompagnez ?
Alors effectivement, l'Atelier Paysan, en fait, au départ, est né du constat qu'il y a des innovations paysannes et qu'il y a des savoirs et des savoir-faire qui se perdent et qu'il faut entretenir et colporter ces savoir-faire. Et donc, tout simplement, il y a avant tout un travail de formation, de transmission de savoir-faire, de formation au travail du métal, au travail du bois. Mais il y a aussi un travail de recensement, d'identification et pour documenter des innovations paysannes existantes. Et puis, il y a un travail d'accompagnement de ce qu'on appelle une forme de R&D, de recherche et de développement, mais qui n'a rien à voir avec celle d'un grand groupe, qui est en fait un travail de mise au point ascendante avec des groupes de ascendantes, c'est-à-dire qui part du terrain avec des groupes de paysans et de paysannes, et collaborative d'outils correspondant à des besoins, et des besoins qui, jusqu'à ce jour, ne rencontrent pas leur outil. Donc c'est pour ça qu'on accompagne pour finalement innover collectivement.
Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'outils mis en place et que vous contribuer à colporter, justement ?
Il y a les exemples un petit peu emblématiques, en fait, au départ, qui sont liés à la naissance même de l'Atelier Paysan, plutôt sur du maraîchage, avec des outils qu'on utilise dans ce qu'on appelle des planches permanentes, en fait, qui est une manière de cultiver, de faire pousser des légumes, sans retourner la terre. Donc, d'avoir un travail du sol qui est superficiel sur ce qu'on appelle des planches et qui nécessite des outils d'une certaine largeur. Donc, il faut pouvoir former ses buts, les entretenir. Et donc, on a des outils comme le cultibut, le vibroplanche, un triptyque d'outils qu'on peut avoir pour atteler derrière un tracteur et faire ses planches et les entretenir. Puis, on a des outils qui se sont développés beaucoup en viticulture, par exemple, avec un engrais vert, un couvert qui va occuper le terrain pendant l'hiver et qui va permettre d'enrichir le sol dans les couches superficielles en détruisant ça au moment du printemps, ou d'entretenir aussi, de travailler le sol pour désherber au pied des ceps de vigne. Donc avec des choses comme des étoiles de boudibinage, parce qu'en fait on fait un travail de binage avec des étoiles assez souples qui n'abîment pas les pieds de vigne. Donc voilà, on peut avoir aussi toute une gamme d'outils en fait qui s'adaptent presque à l'infini, parce qu'on a des choses comme la barre porte-outils qui par définition sont en fait des outils destinés à être adaptés par les paysans et paysannes en fonction de leurs besoins et en fonction de leur système de production. Et c'est peut-être la spécificité de notre approche.
Alors justement, pour qu'on soit bien clair, et vous ne vendez pas ces outils agricoles, vous apprenez aux paysans et aux paysannes à les fabriquer eux-mêmes. C'est ça qui est important pour vous.
Alors, on les vend aussi, mais en kit. On ne vend pas des outils déjà prêts. On forme, effectivement, on apprend à fabriquer ces outils, mais il y a des paysans et paysannes qui savent déjà souder, qui savent lire un plan, et donc qui peuvent trouver les plans qu'on met à disposition, puisque tout ça est dans une logique un peu de logiciel libre mis à disposition. On a un pot commun et qu'il nous faut préserver aussi, entretenir, puisque ce n'est pas gratuit, évidemment, ça a un coût. Et on décide d'assumer ce coût et on demande aux usagers et usagères aussi d'y contribuer, mais sur une base libre. Et donc, on peut vendre des outils en kit, c'est-à-dire que la personne reçoit quelque chose de prêt à souder, en quelque sorte, les pièces coupées à la bonne taille, percées, et qu'il n'y a plus, entre guillemets, plus qu'à assembler, parce qu'évidemment, ça nécessite un certain savoir-faire, et c'est là où le fait d'être passé en formation auprès de mes collègues formateurs et formatrices au travail du métal permet de réaliser ensuite l'outil.
Et vous avez un camion atelier hein, qui sillonne toute la France.
Alors, on en a plusieurs parce qu'en fait, l'atelier paysan est né de manière un peu historique en Isère, à côté de Grenoble, et c'est toujours là qu'on a notre siège. On a aussi deux antennes, une en Occitanie et une en Bretagne. Mais on a des camions ateliers, effectivement, qui permettent, en fait, avec un formateur ou une formatrice au travail du métal, d'aller s'installer sur une ferme ou dans un autre lieu, mais c'est souvent des fermes, pour mettre en place une formation et dans une démarche qui est, par essence, j'ai envie de dire, collective. C'est-à-dire que la formation, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il y ait un collectif. Mais l'enjeu, c'est aussi, au travers de ces moments de formation, de créer du collectif, de créer du lien et de créer de la circulation de savoir et de savoir-faire.
Je le disais tout à l'heure, cette démarche de l'atelier paysan est portée par des convictions et en particulier par un regard très critique sur l'organisation du monde agricole aujourd'hui. L'atelier paysan a publié un livre qui est disponible en poche, « Reprendre la terre aux machines », c'est le titre de ce manifeste. Et vous suggérez dans ce livre d'entamer, je cite, « une désescalade technologique ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire tout simplement qu'à partir de notre expérience, à partir de notre vécu, on est en position d'observation aussi assez fine de l'évolution de l'agriculture et qu'on voit, mais ce que perçoivent et décrivent bien d'autres acteurs aussi du monde agricole, une sophistication de plus en plus poussée finalement des machines. Avec cette idée derrière une sorte d'imaginaire du progrès. Il y a une fascination pour le progrès technique. Et avec cette idée, quasiment impossible à questionner, que le progrès technique serait nécessairement et forcément bon. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on documente, nous, assez finement, c'est le fait que cette évolution machinique a contribué à l'industrialisation de notre agriculture et verrouille aujourd'hui l'évolution des productions. Nous, on s'inscrit historiquement dans une démarche d'agroécologie paysanne, c'est-à-dire un ensemble de pratiques agroécologiques, mais aussi inscrit dans une vitalité des territoires avec des paysans et des paysannes en nombre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le machinisme, par des effets d'investissement, d'endettement et qui mènent à agrandir les fermes et à de la concentration foncière, pousse finalement à des logiques industrialisantes. Et au final, avec une promesse de produire une alimentation à bas coût, alors qu'on se retrouve aujourd'hui avec 8 millions de nos concitoyens et concitoyennes qui émargent à l'aide alimentaire, donc une promesse qui n'est pas réalisée. Donc c'est la mise bout à bout de ces deux constats qui nous amène effectivement à formuler cette proposition parmi d'autres dans notre manifeste.
Dans quelle situation se retrouve, d'après vous, une éleveuse ou un maraîcher, par exemple, qui ne sait pas réparer la machine qu'il utilise ou qu'elle utilise tous les jours ?
C'est là où on parle de dépendance, finalement, de dépendance technologique. C'est une éleveuse qui se retrouve complètement dépendante de l'intervention d'un mécanicien, du concessionnaire ou de la mise à jour d'un logiciel pour permettre à un appareil de fonctionner, va se retrouver finalement à ne pas pouvoir faire évoluer son système de production parce qu'il y a aussi derrière des logiques d'investissement, donc de remboursement, de l'endettement. Et c'est là où le machinisme verrouille des systèmes de production. C'est-à-dire que si demain vous voulez changer de système de production, vous avez finalement tout ce capital sur la ferme qui vous entraîne dans une sorte de fuite en avant et qui vous empêche d'opérer le virage dont a besoin l'agriculture française.
Oui, il faut donc exploiter plus de terres, par exemple, pour rembourser l'achat d'un tracteur ou d'un robot de traite. C'est là que vous voyez une fuite en avant.
Ou avoir plus de vaches pour rentabiliser le robot de traite, effectivement, qui est un des robots agricoles qui se développe beaucoup. Donc, effectivement, il y a cette impression aussi qu'on va faire des économies d'échelle. Et en fait, quand on regarde les chiffres, d'ailleurs, au niveau économique, à partir des statistiques du ministère de l'Agriculture, c'est ce qu'on a fait dans une autre publication, un rapport d'observation sur les technologies agricoles, on voit que ces économies d'échelle, elles n'existent pas. C'est-à-dire que par unité de surface, il n'y a pas d'économie d'échelle. La seule économie d'échelle, c'est parce qu'on supprime du travail humain. C'est parce que petit à petit, on perd des paysans et des paysannes, on perd des agriculteurs et des agricultrices, et on a une véritable saignée démographique dans ce secteur. Dans les années à venir, on va avoir la moitié des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite. On nous parle de politique d'installation, mais si on continue dans les mêmes logiques de mécanisation et de sophistication électronique du machinisme agricole, on va tout droit vers une agriculture avec 200 000 agriculteurs ou agricultrices, et donc en fait avec des campagnes qui deviennent un peu des déserts en termes de vitalité économique, en termes de vie sociale.
Vous contestez même que le machinisme, comme vous dites, ou la mécanisation, ça puisse venir en aide aux êtres humains sur des tâches particulièrement difficiles ou pénibles ?
Bien sûr que non, puisque nous-mêmes, nous construisons des machines et nous accompagnons à la construction de machines. Donc, c'est sûrement pas une critique que l'on pourrait porter. Par contre, on met en garde contre ce qui est une solution technologique qui viendrait s'imposer. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. C'est face à un problème donné, se dire que la solution serait nécessairement technologique. En réalité, il y a bien souvent des conditions sociales et économiques derrière qu'il faut aller interroger. Et donc, plutôt que de se tourner vers une solution technologique qui risque de n'apporter qu'une solution transitoire, puisque finalement on va dégager un peu de marge de manœuvre qui rapidement va être absorbée à nouveau par l'aval ou l'amont de la filière. Les producteurs et productrices agricoles sont coincés finalement entre le secteur de l'agrofourniture et tout l'aval avec l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Donc, plutôt que d'essayer de dégager un petit peu de marge comme ça, retrouver de l'autonomie en essayant d'organiser différemment soit son système de production à l'échelle individuelle, soit collectivement, et c'est ça qu'on essaie de porter au niveau politique, en essayant de réorganiser différemment les filières agricoles.
Est-ce que vous voyez progresser petit à petit cette alternative que propose l'atelier paysan, notamment l'idée de l'open source, de laisser les outils que vous concevez disponibles gratuitement ?
Alors, il y a effectivement dans un certain nombre de domaines cette logique, nous, qu'on revendique comme étant inspirée du logiciel libre, une logique libriste. On met à disposition, mais en attendant aussi de la part des usagers et usagères qu'ils contribuent à l'entretien du pot commun. On n'est pas simplement utilisateur. Si aujourd'hui vous allez sur Wikipédia ou sur d'autres sites qui offrent ce genre de service, on vous demande régulièrement on vous propose volontairement de contribuer à la hauteur de vos moyens. Dans la même logique, on met à disposition des plans, un savoir accumulé qui n'est pas le nôtre, que nous avons recensé, identifié et que nous essayons de mettre en lumière, mais nous appelons aussi à une vigilance collective pour entretenir ce pot commun.
Quiconque a déjà bricolé, c'est la fierté que ça peut procurer. Est-ce que vous avez ces retours-là aussi du monde paysan ? La fierté d'avoir fait soi-même ou d'avoir réparé soi-même ?
On a effectivement une satisfaction qui est régulièrement exprimée, notamment de la part de plus jeunes. Donc effectivement, c'est quelque chose dont témoignent régulièrement les personnes qui suivent des stages de formation à l'autoconstruction chez nous. C'est cette capacité, cette montée en capacité, la capacité de faire soi-même et la capacité de comprendre aussi le matériel qu'on utilise et de pas simplement finalement être ce qui, à l'inverse, est promu aujourd'hui par les politiques publiques en termes d'agriculture numérique, une espèce d'usager presse-bouton d'un algorithme qui va encapsuler le savoir-faire paysan pour essayer de répondre à des besoins, et le tout à grand renfort de data centers et de consommation énergétique assez massive.
Voilà, l'atelier paysan, c'est le nom de cette société coopérative. Et je rappelle le titre de votre livre, Reprendre la terre aux machines. Merci beaucoup Thomas Borel.
Merci à vous.
Et j'ai un message d'auditrice à vous lire. Le département de l'Oise était à l'honneur cette semaine et voici ce que nous écrit Virginie. L'association Jardin et Santé a compris très tôt l'importance des jardins comme espace thérapeutique pour les patients fragilisés par la maladie, l'âge ou le handicap, qu'ils soient adultes, ados ou enfants. Cette asso était d'ailleurs pionnière en France sur ce sujet. Depuis sa création en 2004, elle a soutenu la création de 92 jardins à travers toute la France. La délégation des Hauts-de-France propose à l'occasion l'occasion des rendez-vous au jardin, les 7 et 8 juin, de visiter de nombreux jardins privés à Senlis et dans les environs. Les sommes collectées permettront de financer des bourses pour la création de jardins à visée thérapeutique. Ce sera donc les 7 et 8 juin, ouverture au public de jardins privés de Senlis dans l'Oise, au profit de l'association Jardin et Santé. Cette émission a été préparée toute la semaine par Sophie Hoffmann et Lila Rapoport. Laurent Baudouin était aujourd'hui à la technique.